Et c'est à la planète rouge que l'on s'intéresse ce soir. En 2020, les principales puissances mondiales partent à l'assaut de Mars. De nombreuses missions sont sur le point de démarrer. C'est que la conquête de cette nouvelle planète est un enjeu majeur, scientifique, mais aussi géopolitique. Philippe Antoine.
Cela fait longtemps qu'elle fait virevolter les imaginations, bien avant que l'on ne puisse réellement envisager d'y poser un jour le pied. Ce jour-là semble désormais de plus en plus proche. L'attrait de la planète rouge est aujourd'hui plus grand qu'il ne l'a jamais été. Tout le monde, ou presque, veut y aller. Les Américains, bien sûr. Les Européens, en partenariat avec les Russes. Mais aussi les Chinois, les Indiens et même les Émirats Arabes Unis. Et tous, évidemment, ont bien l'intention d'être les premiers. Quelque part au nord de Pékin, en novembre dernier, en présence d'ambassadeurs et diplomates d'une vingtaine de pays, les Chinois réalisent la plus grande simulation jamais effectuée en Asie de l'atterrissage d'un robot sur Mars. Récemment, des tests ont été effectués sur les moteurs de la fusée chinoise appelée Longue Marche 5. C'est l'équivalent de la fusée européenne Ariane 5 et c'est aussi l'un des lanceurs les plus puissants au monde. Ces trois dernières années, la Chine a investi des milliards de dollars dans son programme spatial pour tenter de rattraper l'Europe et les États-Unis.
Désormais, la Chine peut commencer à planifier activement des nouvelles missions spatiales qui comprennent la recherche d'échantillons sur Mars et le retour sur Terre. En principe, un robot chinois devrait prendre la direction de Mars cette année.
Et c'est aussi le cas en Europe, avec la mission ExoMars 2020, dont l'objectif et de faire atterrir sur Mars une plateforme russe qui embarquera ce véhicule appelé Rover. Il devrait récolter des indices de vie passés ou présentes sur Mars, notamment en explorant le sous-sol jusqu'à 2 mètres de profondeur, mais aussi étudier l'environnement martien. On s'active enfin également aux États-Unis, où le message de la NASA à propos du programme Artemis vers la Lune en 2024 est on ne peut plus clair.
Rappelez-vous pourquoi nous allons sur la Lune. On y apprend comment vivre et travailler pendant une longue période. C'est ce que nous essayons de faire. Parce que lorsque nous irons sur Mars, ce sera pour des séjours de longue durée. La Terre et Mars sont du même côté du Soleil tous les 26 mois. Ça veut dire que si vous y allez, il faut être prêt à y rester.
Et dans son discours, le nouvel administrateur de la NASA n'a pas pu s'empêcher d'ajouter cette petite phrase.
Selon le président, le prochain homme et la première femme sur la Lune seront américains.
De la Lune à Mars, il restera du chemin. En attendant, on ne se lasse pas d'écouter ceci. C'est le souffle du vent sur Mars, enregistré par le sismographe de la sonde américaine InSight, qui, depuis novembre 2018, fait des relevés sur la planète rouge.
De Kegeler, on va voir avec vous quelles sont les pistes aujourd'hui étudiées pour contourner ces obstacles.
Oui, et c'est clair, survivre sera un véritable défi puisque tout est à créer, à commencer par une atmosphère respirable. Sur Mars, on a à peine 0,16% d'oxygène contre 21% sur Terre. Il faudra donc en créer artificiellement. Alors, le prochain véhicule martien de la NASA devrait embarquer à son bord un engin qui pourrait transformer le gaz carbonique présent à 96% sur place en oxygène. Vient ensuite la question de l'habitation. Alors la NASA imagine imprimer en 3D des abris directement sur place, mais il faudra faire face à des températures pouvant descendre jusque moins 143 degrés et à de puissantes radiations puisqu'elles sont peu filtrées par l'atmosphère martienne qui est très faible, d'où l'idée parfois émise de vivre en sous-sol.
Et là, on n'a pas encore parlé de l'eau. Et de l'alimentation?
Non. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la glace sur Mars, parfois même à quelques centimètres à peine de profondeur. Mais cette glace, il va falloir la transformer et il va falloir la traiter. Ça va nécessiter de l'énergie, énergie qui est aussi à produire. Plusieurs pistes sont émises et il y a des mini-réacteurs nucléaires qui sont actuellement en test. En ce qui concerne la production de l'alimentation, le premier organisme qui pourra être peut-être cultivé sur place sera la spiruline, cette micro-algue qui est super nutritive et qui, pour grandir, absorbe du CO2 et rejette de l'oxygène. Tout le défi sera ensuite de pouvoir produire d'autres plantes et d'envisager éventuellement l'élevage de petits animaux, tout ça sans importer de produits chimiques de la Terre.
En fait, ce sera une vie totalement en autonomie et il faut imaginer un nouvel écosystème.
Oui, c'est exactement ça. Alors, il y a une start-up française qui travaille sur la question, Interstellar, qui développe Ebios, un village biorégénératif qui est conçu en cycle fermé pour produire et recycler de l'eau, de l'énergie et de la nourriture pour faire vivre une centaine de personnes. Alors avant d'éventuelles explorations spatiales, ce dispositif sera testé à différents endroits sur Terre et il sera testé par des scientifiques, mais aussi par des gens comme vous et moi qui auraient envie de tester les conditions de vie sur Mars. Et il existe déjà plusieurs expériences qui proposent ce genre d'immersion, comme on le voit ici dans ce dôme qui se trouve à Hawaï.